J'aimerais montrer deux, trois choses que je trouve importantes, qui mettent en valeur, il me semble, la pertinence de cet auteur comme un des pères fondateurs de cette littérature populaire, qui n'est peut-être pas celle que vous attendez, ou bien celle qui est la plus représentée ici, je ne sais pas. Cette bibliothèque a été, je crois, constituée dans les années 60, c'est-à-dire un moment où Eugène Sue était déjà mort, et où sa littérature n'avait peut-être plus le vent en poupe, si j'ose une métaphore si audacieuse, n'est-ce pas ? Alors, j'ai intitulé, si vous le permettez, mon petit intervention, Eugène Sue ou la vérité par le roman. En effet, une chose est tout à fait caractéristique, Eugène Sue n'est pas un romancier comme les autres, c'est un personnage qui a voulu faire du roman, du texte écrit, à voir encore sous quelle forme il le pensait, mais nous en parlerons peut-être, quelque chose de particulier. C'est pas du tout dans le genre littérature de divertissement, peut-être qu'on attendrait, ni dans le genre littérature feuilletonesque au sens vulgaire du terme, mais il a voulu faire du roman, ça serait ma thèse, un instrument d'instruction, un instrument de savoir. C'est donc particulièrement bienvenu que nous en parlions ici. Donc c'est pas un auteur comme les autres. Probablement, nous en apercevons pas tellement en tant que lecteur habituel. D'ailleurs, quand je dis habituel, il est relativement difficile de lire du sud. Si vous vous précipitez dans un magasin après cette conférence, vous aurez, ou peut-être l'avez-vous fait avant, vous aurez peut-être quelques déceptions. Il n'y a pas grand-chose sur le commerce. Il y a dans la collection bouquin Le Juif errant, mais c'est un gros morceau de volume, je crois. Et puis Les Mystères de Paris, puis après c'est tout, quoi. Donc c'est un auteur qui a plusieurs titres, doit nous intéresser, il me semble. D'abord, on pourrait dire ceci. C'est un auteur excentrique. C'est un auteur qui colle mal dans les catégories que nous avons l'habitude d'utiliser en littérature. Excentrique dans tous les sens. Excentrique dans son comportement, dans ses comportements politiques aussi. Excentrique par rapport à la situation culturelle dans laquelle il a été immergé au début des années, disons, 30, jusqu'au milieu des années 50. Excentrique aussi par son comportement politique, qui ne colle pas avec ce que l'on attend généralement d'un amuseur des foules. C'est une première chose à dire. Deuxièmement, Sue, c'est un auteur qui a écrit ou commis, selon le cas, un des grands best-sellers de la littérature du 19e siècle. N'est-ce pas ? Les Mystères de Paris, c'est la chose, monsieur, que l'on doit avoir lu, que l'on désire lire, en tous les cas, à l'époque qui nous intéresse. Alors, c'est un ouvrage de référence des années 42-43. En tant qu'auteur d'un best-seller, il est d'autant plus intéressant de l'étudier, car cela veut dire que c'est une fenêtre ouverte sur la culture du 19e. Ça veut dire aussi qu'il est un moyen de comprendre ce qui a passé par les têtes des générations de cette époque. En plus, comme je le disais déjà, il a pris un tournant aux alentours des années 45-48, comme ça, juste avant la révolution. Et ce tournant, c'est un tournant socialiste. Il est rare, il est même rarissime, de trouver un auteur de roman populaire qui vire au rouge, enfin, en tous les cas, au rose. Généralement, ça vire au brun, ça vire au noir, ça vire au gris, quelquefois. C'est une loi presque du genre. Il est difficile de se maintenir dans le rez-de-chaussée du roman feuilleton, de vendre sa marchandise. Si l'on a des opinions politiques avérées, je parle de l'époque qui nous intéresse, et surtout si ces opinions sont à gauche. Enfin, à gauche, il ne faut pas exagérer, la gauche dessus est pour nous pas très loin du milieu, hein, c'est évident. Mais enfin, quand même, et nous allons en parler, vous verrez. Il a suscité, à ce titre-là aussi, hein, et c'est intéressant, il a suscité un grand scepticisme dans la critique littéraire, dans les universités par la suite. Il y a très peu de littérature raisonnable que l'on pourrait vous conseiller de lire à propos de Sue. Je serais vraiment bien empêché. Il y a une monographie, dont je me suis servi bien sûr, que je vous conseille. Je crois qu'elle est épuisée. Je ne sais pas si c'est l'hérédité de Pori. Ah oui, dans les bibliothèques, dans les vénérables, elle se trouve, oui, bien sûr, elle a été rééditée une fois, mais quand elle l'a trouvée dans le commerce, c'est une autre affaire.
Quel Bory, Jean-Louis Bory ?
Oui.
Ah bon ? Le roi du roman.
C'est ça. Ah, oui. Oui, il y a deux titres, il faut faire attention, parce qu'il y a deux éditions, il a vendu l'une à un autre éditeur en mettant évidemment un autre titre. Mais enfin, peu importe. Et c'est un bon livre d'ailleurs, je trouve, qui est bien fait, bien documenté. Pour les grands fanatiques que vous allez devenir, si vous ne l'êtes pas déjà, il y a quelqu'un qui a remis la main à l'ouvrage et qui a publié, sous forme de thèse d'ailleurs, c'est deux gros volumes publiés chez l'Harmattan qui doivent coûter des choses comme 600 francs, mais pour ceux que ne ferait-on pas, qui rassemble toutes les lettres, toutes les correspondances que la famille de Sue avait conservées à l'occasion de l'apparition des Mystères de Paris. Ça, c'est un document rarissime, parce que généralement, ce genre de lettres, on les met à la corbeille à papier, on ne les garde pas, les héritiers les balancent par la fenêtre, enfin, de toutes les façons, on ne les a pas. Dans le cas dessus, on a tout. Ce qui veut dire qu'on a, une bonne idée de ce que Sue provoquait avec sa littérature chez ses lecteurs. Ça, c'est un cas tout à fait intéressant, qui n'a d'ailleurs pas encore été réellement exploité. Bory en avait connaissance, il m'en dit quelque chose. Galvan, qui est un collègue qui publie ces choses-là, en dit aussi quelque chose, mais à mon avis, ça reste encore, c'est un champ vierge. Bon, ça c'est l'excellente. Alors maintenant, deux ou trois remarques de façon à placer dans son temps, il me semble que c'est tout à fait capital, pour voir un petit peu ce que ça veut dire qu'avoir écrit cette œuvre. Alors d'abord, je commencerai en tout cas par un plaidoyer pour la littérature populaire. Sauf à savoir ce que ça veut dire que littérature populaire, n'est-ce pas? Quand j'ai prononcé populaire la dernière fois que je suis venu ici, on m'a tout dit oui, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, je ne vais pas raconter grand-chose, c'est seulement dire, pour moi, la littérature populaire, ce n'est pas une littérature par défaut. Ce n'est pas une littérature qui manque, par exemple, de valeur, ou de style, ou de contenu, ou d'opinion, ou d'intention. C'est une littérature à part entière. Pour moi, la littérature populaire, ce n'est pas de la paralittérature, comme on dit très très souvent, ou bien comme on dit outre-Rhin, où j'enseigne en particulier, c'est de la littérature triviale. Enfin, un écrivain de littérature populaire n'est pas plus trivial qu'un monsieur qui est assis à l'Académie française et qui écrit des bouquins d'un autre ordre, nous sommes bien d'accord, mais qui est aussi trivial, peut-être. Il y a des bons auteurs à tous les niveaux. Il n'y a pas de hiérarchie entre ces différentes positions. Donc c'est très important, vous devez entendre, et c'est évident dans ce lieu, et ce que je crois dessus, ce que je vais vous présenter, comme une sorte de plaidoyer, mais je sais que vous êtes là, et par conséquent, je vois que vous êtes là, et que vous êtes des gens convaincus d'avance, je le sais bien. Alors c'est un réconfortant, évidemment, parce que généralement, ce n'est pas du tout comme ça. Devant mes collègues à l'université, la littérature populaire, vous savez, c'est pas avec ça que tu fais carrière, hein, c'est absolument impossible. Hein. Celui qui fait une thèse sur Dumas, il n'a pas beaucoup de chances de se retrouver professeur de première classe si facilement qu'un autre qui travaille sur Proust ou bien sur Flaubert. Et c'est comme ça. Bon, il y a autre chose encore. Je crois que la littérature populaire, c'est une littérature qui est en prise directe avec l'opinion générale, c'est-à-dire ce que les gens pensent réellement, ce que les gens pense à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est une littérature qui est en prise directe avec les mythes ou la fantaisie ou les fantasmes que nous pouvons avoir, et en ce sens elle est précieuse parce qu'elle nous fait peut-être rentrer plus aisément qu'une littérature plus travaillée dans ses esprits. Je serais obligé de maintenant, deuxième petite chose, de faire un petit rappel historique, parce que c'est pas n'importe quand, c'est pas n'importe quoi. La littérature qui nous a légué, elle s'inscrit dans un mouvement d'évolution de la littérature en général. Il faut bien avoir ça à l'esprit, autrement on ne voit pas très bien, parce que nous voyons tout à plat. À l'époque de Sue, la littérature vit un bouleversement absolument radical. Jusque, disons, à la Révolution grossièrement, il y a une littérature écrite, en gros. C'est une littérature d'élite, c'est une littérature pour les élites, c'est une littérature qui se tire à 600 exemplaires pour les gens bien, pour les philosophes, pour des gens qui tiennent salon, pour les gens qui sont cultivés et qui d'ailleurs qui ont de l'argent, et ainsi de suite. Il n'y a qu'une littérature. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il y a la littérature populaire. Oui, mais elle est orale. Elle n'a donc pas du tout le même circuit. C'est une littérature qui n'a pas de contact avec l'autre. Il y a en fait une littérature. Jusqu'à la Révolution. Après la Révolution, les choses changent. Pourquoi ? Parce qu'on invente un système qui s'appelle une machine à vapeur, des presses à vapeur, qui permettent de multiplier à bas prix, relativement bas prix, les exemplaires d'un livre. On invente aussi la lithographie, on invente des tas de choses. Mais en tous les cas, cette chose importante, c'est que l'imprimé permet dorénavant d'abaisser sérieusement le coût du journal de papier, le coût de l'impression, le coût du journal, et donc le coût de l'abonnement, et le public va donc pouvoir à peu près suivre. Cela veut dire qu'à partir des années 30-40, grossièrement, les littérateurs vont devoir se rendre compte qu'ils ne parlent plus tout à fait à des copains, à 200 personnes, 300 personnes, mais tout à coup peut-être à 3000, 4000, 6000, 10000, c'est-à-dire un public qui est nettement plus vaste, qui n'est pas forcément aussi homogène que celui auquel il avait l'habitude de s'adresser précédemment. Donc, et en plus, il doit s'habituer au journal. Le journal devient le support littéraire fondamental. On vend à une rédaction un roman, ce roman, s'il marche, on l'en tire en livre, et l'éditeur en fait une édition donc plus chère, moins accessible, mais qui se basera sur le succès que le journal a permis de repérer. C'est un phénomène connu, Missu se trouve justement là, un des premiers auteurs à fabriquer des romans qui sont à la fois un support du journal et qui bénéficient du journal comme support. C'est une situation totalement différente de celle que connaissait quelqu'un comme Rousseau ou Marivaux, et bien sûr précédemment. Encore que Marivaux utilisait le journal, mais tout à fait dans un autre sens. Alors c'est tout à fait important, parce que la littérature, à partir des années dont je parle, va toucher à la fois un public restreint, ceux qui lisent les journaux, puis un public un peu plus large, qui sera bientôt, pas tout de suite, mais bientôt un public qu'on pourra appeler populaire. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il faut en tenir compte quand on écrit. Ça paraît évident, mais ça veut dire qu'on ne peut plus écrire comme on écrivait auparavant. Su est l'un des inventeurs de cette nouvelle littérature dont le mode de narration est fondamentalement différent de ce qui a précédé. Premièrement, ça doit être une littérature intéressante, c'est-à-dire passionnante, c'est-à-dire qui intéresse, par le suspense, par les aventures, qui tient en haleine d'un jour sur l'autre ou de semaine en semaine, qui ne doit pas ennuyer, qui doit éviter la longueur, qui doit éviter la discussion. Ça veut dire que le modèle sera un romanesque. Il est difficile de penser de la poésie en feuilleton, parce qu'il n'y en a pas. Le modèle sera romanesque et le modèle romanesque que l'on choisira sera animé par l'aventure, qui sera la structure de base. Voilà. Ce système du roman feuilleton, du feuilleton, pour commencer, va être ce qui tient le haut du pavé en termes commerciaux pendant cette époque, c'est-à-dire entre 1840 et 1800, peut-être 80. Et là, il faut distinguer en deux générations. La première génération, c'est la nôtre. Balzac, Su, Dumas, et je dirais Soulier encore, pour indiquer quelques noms. Ça, c'est la première génération. Ils inventent la chose. Et Su est peut-être celui qui a le plus marqué, même si Dumas, presque la même année que l'émissaire de Paris, publie son conte de Monte Cristo. Mais Su est plus représentatif, en quelque sorte, quand même. Et quant à Balzac, il est l'inaugurateur, puisque c'est lui qui a publié le premier roman feuilleton, dans le premier support disponible à l'époque. La deuxième génération, le système est rodé. Ce sont des noms comme Féval, Ponson, Ponson-Littérail, bien sûr, et Montépin. Et vous voyez déjà, si vous connaissez les œuvres de ces auteurs, c'est vraiment tout à fait autre chose, déjà. Dans l'œuvre à la Su ou à la Dumas, on a des positions, on a des théories. Le roman est celui de la revanche, est celui de justicier, dans le cas de Monte Cristo. Mais dans les textes de Féval, de Ponson, de Littérail ou de Montépin, le support n'est plus utilisé de la même manière. C'est un roman qui se dévide à l'infini de ses péripéties sans qu'on puisse être très au clair sur la finalité de la chose. Et à partir des années 1900, je dirais que nous sommes du côté tout à fait ailleurs. Nous basculons vers le spectaculaire avec l'invention du ciné-roman, du roman photo plus tard, et ainsi de suite, et bientôt de la télévision. Nous avons donc a fait un long chemin, et Su est au début de ce long chemin. Je dirais que nous allons vers la standardisation, et Su est l'un de ceux qui, support oblige, implique une certaine standardisation, même s'il y a des manières honorables, et d'autres qui le sont moins, de se servir de ce support. Voilà, il me semble que c'était important de le rappeler. Alors je vais essayer de montrer quelle est la carrière de Su. crois que c'est la chose la plus importante à dire. Je ne vais pas rentrer très en détail dans les œuvres, je ne vais pas non plus faire de la biographie, mais je vais essayer de considérer l'œuvre et l'homme comme une sorte de bloc unitaire. Parce que je crois que l'un va avec l'autre, surtout dans le cas de Sue. Eh bien, Sue, bien sûr, est un fils de famille, cela vaut pour tous ceux dont nous avons déjà noté les noms. C'est un fils de famille qui a plutôt mal tourné, si l'on veut, puisqu'il a fini en exil, à peu près ruiné, oublié, disent les mauvaises langues, et surtout animé d'un espoir social et politique qui devait faire retourner plusieurs fois son père dans sa tombe. On peut dire donc que c'est un excentrique, comme je l'ai dit en début, dans la mesure où il s'est retourné contre sa position sociale de base, sans vouloir faire de la sociologie, de la littérature, c'est évident. Il fait partie d'une famille très honorablement connue, vous le savez peut-être, de médecins. Il y a beaucoup de fils écrivains chez les médecins de l'époque. Il y a d'autres célèbres exemples, Flaubert, n'est-ce pas, mais c'est loin d'être les seuls. La famille des Sue est connue depuis bien des générations comme médecin chirurgien. La famille est originaire du Var. Et d'ailleurs, question à 1000 francs, où se trouve la seule statue d'Eugène Sue disponible, non pas dans le commerce, mais dans nos balades touristiques. Eh bien, elle se trouve dans le village natal, qui s'appelle, je crois, la Boule, oui, c'est ça, du côté de Menton, donc à l'extrême sud-est de la France. Le père est un médecin, et pas seulement médecin, mais un personnage. Il a été fait chevalier, on l'appelle Monsieur le Chevalier Sue, la famille n'est pas noble, bien sûr. C'est un homme en vue et un homme d'une redoutable habileté, puisqu'il a réussi, c'est important à l'époque où nous nous trouvons, n'est-ce pas, à tourner sa veste suffisamment de fois et au bon moment sans en subir les conséquences. Il a été médecin traitant de Napoléon Bonaparte, ce qui... Il n'était pas le seul, évidemment, ce qui voulait dire qu'il aurait pu avoir de redoutables retours de manivelle aux 100 jours et après les 100 jours. Non, il s'en est bien tiré. Il a même eu, en 1830, quand il est mort, quelque chose comme des obsèques nationales, ce qui a permis à Eugène, fils unique, d'entrer dans la vie avec une pelote, comme on dit, et une remarquable fortune. À 26 ans. Il a mis 6 ans pour croquer tout ça. Il ne reste plus rien. Il faut dire aussi, parce que c'était intéressant. Là. Le père, Sue, était certainement un homme intéressant. Il s'est divorcé de sa femme. Sa femme est une personne beaucoup plus jeune que lui. Le ménage n'a pas fonctionné. Et le fils, Sue, était en quelque sorte le petit Benjamin qui donnait des problèmes et que la mère choyait trop, bien entendu. Le père a voulu l'obliger à évidemment rentrer dans le droit chemin. Quand on est médecin, bien entendu, qu'est-ce que l'on dit à son fils ? Mon fils, tu seras médecin. Il n'a pas eu la bosse qu'il est nécessaire d'avoir. Cependant, le père de main de fer, les pères d'autrefois n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, bien sûr, l'a obligé à faire sa médecine. Il est devenu assistant chirurgien, enfin bon, et... Comme il dépensait trop d'argent, bien le père l'a envoyé, et c'est intéressant, l'a envoyé dans un voyage au long cours, sur un bateau, pour apprendre la ville, là-bas, dans l'Orient. Pendant 2 ans, il a tournicoté, détestant la mer d'ailleurs, et en détestant nous aussi son métier, et puis son père est heureusement, si je veux dire, pour lui, mort, et donc il a abandonné totalement cette activité qui n'était pas la sienne. C'est un mauvais élève au lycée. Quand on a un père dont on veut se distancer, c'est généralement une des stratégies choisies, ou bien être meilleur que lui, quand le père est déjà meilleur que le père. Donc il ne reste plus qu'à être le moins bon de la famille, et c'est ce qu'il a fait. Et puis quand il a eu les sous, il s'est cru artiste, il s'est cru peintre. Ça n'a pas marché, il s'est vite rapidement aperçu que ce n'était pas la bonne copine, et puis il a dépensé. Il a eu des maîtresses, ça fait partie de ce que dans sa fonction de dandy on devait avoir. Il a eu bien entendu des attelages, il a fait courir des chevaux, il s'est ruiné son petit hôtel particulier. Alors c'est la première tendance de l'écrivain, il a raconté les aventures qui étaient demandées à l'époque. un peu de pittoresque, un peu d'aventure, des voyages au long cours. Le voyage, c'est un truc qui marche à l'époque. Et le voyage sur un bateau, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Et donc, il se sert de ces voyages pour nous entraîner à l'aventure. Alors, il y a des tas de romans dont je ne vous parlerai pas tellement. Ils sont bien, pourtant. La Salamandre en 32, La Cucaracha en 32 aussi. Tout cela n'est pas réédité. Vous trouvez ça seulement dans ces murs, je l'espère, au moins. Et puis, un roman qui a attiré l'attention et que je trouve tout à fait sensationnel, c'est le premier roman anti-esclavagiste de la littérature française. Alors, ça vaut la peine qu'on en parle. Alors qu'à l'époque, l'esclavage était supposé être interdit. Enfin, sous la Restauration, il est réintégré, quoique la France soit beaucoup plus rebelle à l'esclavage que les Britanniques. En 1831, Sue publie un roman que je vous conseille, qui a été réédité il y a une trentaine d'années chez Pauvert, qui s'appelle, de ce nom barbare, Attargul. Attargul, c'est le nom du premier héros nègre de la littérature blanche française. Pas tout à fait le premier, parce que Hugo en a fait un aussi, qui s'appelle Buck Jargal, et dont la première mouture est de 1826, donc c'est avant. Mais la seconde de 32. Et puis, si l'on veut, j'ai repéré aussi Dumas, qui a publié aussi Georges, qui était un peu plus tardif. Alors, ça veut dire que 3 ou 4 ou 5 ou 10 de nos auteurs, parmi ceux que l'on connaît, se sont laissés séduire par cette figure neuve, le héros nègre, ou le héros demi-nègre, parce qu'à vrai dire, ils sont jamais si nègres que ça. Chez Dumas, Georges, qui est un peu plus tardif, c'est pas un vrai noir, c'est un demi-noir, hein. C'est un métis. Hein. Dans le cas de Buck Jargal, c'est un noir, oui, mais c'est un fils de roi, ce qui atténue la couleur, comme tout un chacun sait. Et dans le cas de Attargul, eh bien, c'est un vrai noir. Attargul est nourri par une revendication, sociale. Et qu'en 1831, un noir, dans un roman blanc, soit animé d'une sorte de revendication, c'est tout à fait remarquable. En plus, c'est une revendication qui ne s'affirme pas, enfin, qui n'est pas publique, en quelque sorte. C'est une affaire entre le lecteur et le personnage, le héros. En effet, Attargul est réduit en esclavage, il fait partie donc des biens d'un propriétaire colon du côté de Haïti. Et voilà, il décide de se venger. Et se vengeant, eh bien, il met le feu à la plantation, enfin, d'abord à une grange, puis à l'habitation principale, et puis il s'arrange pour empoisonner les sources, enfin, et ainsi de suite. Mais sans le revendiquer de façon collective et publique, comme ça peut être le cas, et chez Dumas et chez Hugo, dans les deux romans dont je parlais. Ça, c'est assez intéressant, car de fil en aiguille, le lecteur, lui, saura quelle est la raison de ces désastres qui frappent une famille pourtant honorable. Mais le père qui est épargné, qui voit successivement sa femme mourir de chagrin, son fils aîné assassiné dans des conditions affreuses, la fille brûlée dans l'incendie, bon, et ainsi de suite. Catastrophe, ruinée bien entendu. Il n'est accompagné dans ses malheurs que par, bien sûr, Attargul, qui est le modèle du dévouement domestique, qui est celui qui va rasséréner son maître et qui va le soigner, qui va l'accompagner dans sa vieillesse pendant des années et des années, qui va l'accompagner rentrant à Paris, qui va devenir lentement gaga, muet, paralytique, vieux, près de la tombe. Et au moment où, bien sûr, ce personnage sera frappé de paralysie générale, mais encore aura sa tête à soif, que fera Attargul ? Il lui dira, c'était moi. C'est moi qui m'ai vengé de m'avoir séparé de ma famille. C'est moi qui t'ai fait comprendre, sans que tu le saches, ce qu'il en était de l'esclavage. Alors, le type meurt sans pouvoir dire quoi que ce soit, évidemment, n'est-ce pas, dans des affres que je vous laisse imaginer. C'est une revanche sociale considérable, hein, mais un pas de plus, un tour de vis de plus. Attargul se comporte extérieurement comme le sommet des domestiques, il est médaillé, il recevra une somme, un prix, Montyon peut-être, n'est-ce pas ? On le distinguera, il sera entièrement intégré dans la société qui l'accueille, et il finira sa carrière comme maire d'une petite ville, des environs. C'est pas le premier et le dernier qui aura quelque chose à se reprocher, je crois, n'est-ce pas ? Mais là, c'est un crime. Seulement, c'est un crime intéressant, c'est un crime justifié par, en quelque sorte, la situation dans laquelle l'esclavage permet de le réduire. Mais c'est aussi le signe de départ de la revendication, encore très romantique, dessus. Vous voyez, je crois que c'était nécessaire d'en parler, je crois que ça nous permet de comprendre ce qui se passe maintenant dans les romans qui sont ceux de la seconde période. Alors, il y en a beaucoup, évidemment. Arthur, Mathilde, ce sont les romans qui datent des années, fin des années 30, début des années 40. Ce sont des romans consacrés à mettre en valeur, en quelque sorte, l'hypocrisie sociale. Hein, la société est un masque. Les personnages sont tous atargulesques, en quelque sorte. Hein. Ils trompent leur monde. Si les Noirs trompent, ils prennent le masque de l'hypocrisie. Vous imaginez ce que les Blancs font ? Bah, ils sont l'hypocrisie générale. Alors, nous allons nous promener avec des romans qui n'en finissent pas. 6 volumes, je l'ai lu, Mathilde, alors où l'on voit une pauvre fille qui est trompée par toutes sortes d'hommes, bien entendu, tous plus misérables les uns que les autres, et qui, lentement, devrait arriver à la revendication. Elle est trompée, elle est perdue, elle décide de ne pas se révolter, un peu comme Targule décide de ne pas se révolter. Sauf que elle, c'est une femme, bien sûr, elle choisit la voie qui lui est offerte, c'est la voie de la souffrance, de l'abnégation et du malheur intérieur. Elle va se laisser périr, je dirais, d'ennui et de souffrance au terme d'une vie qui sera bien terne. Elle renoncera donc à la famille, puisque les hommes l'ont trompée. Elle renoncera au bonheur d'être mère, par exemple. Elle ira vers une espèce de suicide social, elle se tuera dans ses propriétés, elle donnera ses biens à des pauvres, une vie malheureuse, c'est un roman de la victime. Mais le roman de la victime consiste, non pas à nous apitoyer uniquement sur le sort de cette personne, mais en plus à nous faire comprendre que les victimes le deviennent, non pas par le coup du sort, mais par la raison sociale sur laquelle Su veut attirer notre attention. Je crois que ça vaut la peine de regarder maintenant ce qui se passe vers les années 40, au moment où Su découvre le peuple. On peut dire que Su découvre le peuple. Il n'est pas du peuple, lui. Il est d'une très bonne bourgeoisie, installée depuis de nombreuses générations. Il a tiré le diable par la queue, mais il avait quand même un cheval, et puis il avait quand même un pied à terre, et puis il avait quand même deux domestiques, et puis quelqu'un lui faisait sa cuisine, et puis quand même, ça tournait pas mal, ça, son affaire. Bon. Alors, Su, vers les années 40, dans les circonstances qui sont d'ailleurs intéressantes, découvre le peuple, c'est-à-dire, il découvre que il n'y a pas uniquement ce qui se passe dans les faubourgs et du bon côté de cette rue-là, c'est-à-dire de ce côté-ci, justement, mais que l'autre côté, ici, en face, c'est le peuple, et le peuple qui souffre, et le peuple qui est dans la misère, pour lequel la maladie signifie la ruine et la mort, bien entendu. Il se charge, contrairement à un Balzac, ou à un Soulier, ou à un Dumas, qui sont des gens de sa génération, il prend fait et cause. Chez Balzac, qu'est-ce que c'est que le peuple ? Il n'est pas représenté sous des dehors très, très chatoyants. Hein. C'est le contraire. Le peuple, ce sont quasiment des bandits. La méchanceté des petites gens est ce qui est, pour commencer, à l'ordre du jour. Chez Balzac, par exemple, chez les paysans, ce sont des criminels, quasiment. Alors, Su, dans ses Mystères de Paris, veut parler des misères de Paris, justement. On peut dire que les mystères de Paris, c'est les misères de Paris. D'ailleurs, le roman est inventé pratiquement en même temps que la première mouture des Misérables dessus. Hein, le premier titre étant Les Misères. Vous voyez ? Alors, c'est une découverte qui va de pair avec celle que fait aussi Dumas, juste à la même époque, qui s'appelle Les Mohicans de Paris, mais là aussi les choses vont ailleurs. Qu'est-ce que fait Hugo ? bien sûr, il va travailler ça au-delà de la révolution de 48. Il va mettre en scène un destin privilégié, hein, Jean Valjean. Un destin qui est un destin de père. Jean Valjean n'a pas d'enfant. Ses enfants ne sont pas les siens. Mais il va être celui qui prendra sur ses épaules la misère du monde. Ça, c'est intéressant. C'est une sorte de Christ. Un Dieu, le Père, qui accepte de se crucifier lui-même et qui représente en quelque sorte le malheur du monde et qui le prend sur lui pour rendre l'autre, c'est-à-dire ses enfants, Marius d'un côté, Cosette de l'autre, il y a d'autres aussi, qui est l'allégorie du destin de l'humanité. C'est un modèle christique. Hein. C'est du Hugo tout craché. D'ailleurs, Hugo, avec sa barbe, hein, avec sa façon de voir les choses, se prenait un peu pour... Peut-être pas Dieu, je n'oserais pas dire une chose pareille, mais enfin, pas très loin quand même, juste en dessous. Hein, patriarche, en quelque sorte. C'est pas du tout le modèle de Dumas non plus. Dumas, lui, choisit de mettre en scène, disons, un Monte Cristo, ou bien Salvatore. Je parle des Mohicans de Paris. Salvatore, qui est le nom du Christ aussi. Seulement, Salvatore est une autre mouture de Monte Cristo. Seulement, un Monte Cristo qui, lui, va agir de façon christique aussi. Mais ça ne sera pas l'allégorie du père, ça sera l'allégorie du fils. Il restera jeune, il ne portera pas sa barbe, il séduira un nombre considérable de personnes, il sera aimé, mais il agira comme le Christ agit, comme un frère. Enfin, comme un frère. C'est pas le modèle familial qui importe. Il aimera, mais il ne fondera pas une famille, il n'aura pas de fils, il n'aura pas de fille, il sera lui-même le moteur de la régénération sociale, plus précisément, de la justice sociale. C'est pas du tout ça que fait Dieu. C'est pour ça qu'il est intéressant, c'est pour ça aussi qu'on se méfie de lui, parce qu'il met en valeur quoi ? Il met en valeur l'existence du peuple souffrant en tant que tel, et des moyens qu'il est possible d'imaginer pour lui venir en aide. Alors ça pourrait être un roman catholique, non, ce n'est pas un roman catholique, pour lui venir en aide de façon durable. Donc son optique est celle de la régénération sociale, c'est celle de la question sociale. Ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, mais c'est quand même ce qu'il faut constater. Les Mystères de Paris, je dirais, c'est le roman de la question sociale. Qu'est-ce que c'est que la question sociale en 1840? Eh bien, c'est très simple. Une concentration de pauvres gens dans les grandes villes. Je dis pauvres parce que n'ayant pas la possibilité réelle de vivre, à la merci de n'importe quel chômage, et le personnage qui va devenir conscient, comme le lecteur est celui qui va devenir conscient du problème que pose la pauvreté, la misère, à notre société moderne, naissante. Le lecteur est un homme qui va devenir conscient, et le personnage principal de ce livre est celui qui va devenir conscient lui aussi. Et il s'appelle évidemment Rodolphe de Gerolstein. Alors vous avez tous rêvé de Rodolphe de Gerolstein. J'en ai rêvé moi aussi. Et la première chose à quoi j'ai rêvé, c'est bien entendu son nom. Rodolphe, qui est le nom évidemment princier, c'est un prince, grande aristocratie. Mais aristocratie allemande. Comment peut-on rendre conscient de la question sociale française par le biais d'un personnage qui est un Allemand ? C'est impossible, ça devrait être impossible. La défaite a été subie à Waterloo, la loi qui en est ressortie est bien entendu du fait du roi de Prusse, de la Prusse. Bien sûr, c'est pas l'Allemagne. Mais on l'assimile quand même. Alors, Le Mystère de Paris, c'est le roman de la revendication. Et on peut dire que Le Juif errant, c'est le roman de la prophétisation. Le Juif errant est un personnage à la fois social, puisqu'il est porteur d'un message social. Il va dire, en fait, où va se diriger l'humanité, mais aussi... C'est un personnage qui est une sorte d'emblème de la souffrance, puisqu'il est le réprouvé par définition. Le juif, c'est celui qui est rejeté, et c'est ainsi que l'entend su. Et vous voyez donc qu'il y a une espèce de basculement. Dans Rodolphe, nous avons un fils qui souffre, ou un père qui souffre, c'est le modèle christique. Mais le juif, c'est l'antimodèle en principe. C'est celui qui a refusé son aide au Seigneur quand il ne l'a pas mis à mort lui-même. Comment peut-on faire du juif le support de la régénération sociale au XIXe siècle? C'est vraiment audacieux, hein, c'est pas évident, après avoir choisi un Allemand. Le Sue est conscient. Son juif errant est un personnage fantastique, une espèce de figure qui vient déclarer la vérité à ceux qui veulent l'entendre. Et l'autre personnage, fantastique aussi, qui vient dire ce qu'il en est de la vérité, c'est, tenez-vous bien, Hérodiade, celle qui a coupé la tête à Saint-Jean. Alors, donc, deux figures de juifs tout à fait blâmables. Et justement, ces deux personnages sont ceux-là, choisis pour être les porteurs de la vérité auprès de ceux qui veulent la rechercher dans son roman. Alors, il y a des personnages qui souffrent, qui ont des malheurs, et qui, confrontés au malheur, à la place de choisir le couteau du suicide, arrivent à une certaine révélation. Cette révélation, c'est celle que le juif errant propose, ou alors sa formule femme, regarde. Ce que je vous dis là, c'est une question que les critiques littéraires n'ont absolument pas le moins du monde vu. Je ne pourrais même pas vous donner le nom d'une critique ou d'un article sur le juif errant. Il n'y en a pratiquement pas. C'est pour ça que je trouve remarquable, et je remercie les puissances invitantes et bien sûr les puissances écoutantes d'avoir bien voulu me suivre dans ce petit parcours, parce que ça donne un peu de chance à Sud de se représenter devant une postérité qui, en fait, pour l'instant, l'a condamné aux oubliettes. Comme si c'était un personnage du passé. Non, il y a encore des questions qui sont intéressantes, qui sont les nôtres. Comment représenter la vérité et quel est le représentant de la vérité ? Et choisir celui qui supporte le scandale de notre religion. Donc on est en plein dans l'actualité, je crois, et en plein dans la mémoire qui est celle que nous devons avoir, mémoire d'une justice sociale que nous avons à réaliser et qui est encore très loin devant nous, je suppose. Et il habitait à la rue de la Pépinière, c'est-à-dire en dessous de Saint-Lazare. Les historiens se disputent allègrement pour le mettre du côté gauche ou du côté droit. J'y suis allé, à vrai dire, il y a des banques par là-bas, et donc c'est un peu difficile à isoler. Par contre, c'est dans la rue, on le sait, où Stendhal habitait. C'est aussi une rue, à l'époque, qui concentre beaucoup d'artistes au mètre carré.
Et le juif errant, c'était quelle date?
C'est 1842 par là, mais je voulais être très
précis. Tout est avant 48.
Après, la carrière de Sud devient moins intéressante, parce que d'abord, là, 48 a cassé tout. La moitié des gens sont en Belgique, ceux qui ne sont pas fauchés par les fusils, d'autres sont en prison, et d'autres en exil. Sud, lui, choisit un exil un peu particulier, il choisit la Savoie. Alors, la plupart ont choisi Bruxelles ou bien Londres.
Il a des prétentions politiques en matière d'affranchissement des êtres qu'il décrit ou...
Pas de système politique chez lui. Ce qui l'intéresse, c'est rendre conscient, c'est-à-dire amener les gens à la conscience. Et c'est une question de participation, quoi. Ces romans ont le bon et le mauvais côté de l'émotion. Si c'est émotionnel, ça veut dire qu'on peut aussi y participer, mais est-ce que ça ouvre à la conscience? Oui, non, non, oui, on peut discuter jusqu'à la fin des temps pour savoir si c'est la bonne combinaison.
Savoie.
Tu vois plusieurs choses. Premièrement, la Savoie est une terre étrangère à l'époque. C'est le royaume de Sardaigne, ni plus ni moins. Mais c'est encore dans la langue française. Ça joue un grand rôle. En plus, dans la région qui est celle de la Savoie, qui entoure Genève, le Jura, c'est une terre traditionnellement socialisante, disons. C'est capital, on peut comprendre. On a déjà la raison. Si vous allez à Bruxelles, vous allez en monarchie. Vous allez dans une terre où les esprits sont très loin d'être orientés du côté du socialisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus, la petite communauté française des exilés du coup d'État, eh bien, sont des gens avec lesquels Su n'a rien à voir. On pourrait faire toute une comparaison entre l'évolution d'Hugo et l'évolution dessus, mais je crois qu'on peut déjà répondre en gros par là. En plus, une très chère amie, n'est-ce pas, l'a accompagnée dans une partie de cet exil, ce qui est, à quelque niveau qu'on se place, toujours réconfortant. C'est ça qui est intéressant.
Elle l'a accompagnée dans sa mort.
Dans le cas dessus, c'est un homme qui a évolué. Et ça, c'est bien. On peut être d'accord ou pas, ça c'est pas le point, mais il a évolué. C'est pas quelqu'un qui a réécrit toujours les mêmes romans, sur les mêmes bases, avec les mêmes opinions. Et en général, avec la vieillesse ou l'âge, il n'est pas devenu très âgé d'ailleurs, on se fixe, on devient un peu raide dans la tête, comme on devient raide dans les mouvements. Lui, il a évolué. Il a évolué vers plus d'ouverture.